Volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Bonjour à tous, mes invités. Homme Homme, un duo composé de Sophie Verbeck et Bernard Tanguy. Sophie est comédienne au théâtre, au cinéma, elle est chanteuse. Bernard, auteur, compositeur, producteur. Ils ont sorti leur premier album en 2021, intitulé Traversant. Ils ont fait aussi leur première scène à la Boule Noire. Bonjour, Homme Homme.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Homme Homme ?
Bah, écoute, on a cherché longuement le nom du groupe. Et finalement, on est tombé sur Hum Hum, qui est un son de basse fréquence, qui apparemment est un son qui est entendu sur différents continents et qui est assez perturbant, qui résonne comme un bourdonnement. C'est souvent à l'intérieur des maisons. Et je sais pas, ça nous a attiré l'attention.
D'accord.
Et après tout, Hum en anglais, ça veut dire aussi fredonner. Donc il y avait un petit côté, ça avait un rapport avec la chanson. Et comme on était deux, on s'est dit, on va s'appeler Hum Hum.
Oui, et D'accord. Ça marque un peu le doute aussi, tu vois, on ne sait pas très bien.
Qu'est-ce qu'on fait là ?
Alors justement, comment est né le projet ? Comment est né le projet ? C'est-à-dire que vous avez chacun des parcours parallèles. À quel moment vous rencontrez, vos routes se croisent, vous dites, tiens, on va faire un duo, on va sortir un album, on va faire des chansons. Comment ça se passe ?
En fait, on s'est rencontrés sur le film de Bernard, parenthèse. Et quand on l'a tourné, on passait pas mal de temps à la fin du tournage à l'hôtel. Et il y avait un piano et Bernard s'installait régulièrement et il nous faisait des petites reprises. Et j'ai commencé à chanter, je pense. C'est comme ça que ça s'est passé, non, au début ?
Oui, oui, tout à fait.
Et on y a pris goût. Et je lui ai demandé s'il avait créé ses propres morceaux. Il m'a parlé de son passé musical. Et puis finalement, moi, j'écrivais. Donc je lui ai proposé qu'on essaie de faire quelque chose ensemble.
D'accord.
Voilà, ça s'est passé comme ça. Je lui ai fait écouter quelques vieux morceaux. Et puis, je lui ai aussi composé un ou deux morceaux nouveaux. Chose que j'avais pas faite depuis au moins 20 ans. Ouais. Et il y en a un ou deux qui ont plu à Sophie et ça a commencé comme ça. On a fait une ou deux chansons, puis après on s'est dit tiens on va faire un EP, donc on a fait quatre chansons, puis après on s'est dit tiens on va faire un album.
Et alors le processus créatif, c'est qui fait quoi en fait chez Hum Hum ? Parce que Sophie, donc j'entends bien, tu écris, Bernard tu écris, tu composes,
Sophie, est-ce que tu composes aussi ? Écrit ouais. Sur Hum Hum.
D'accord.
C'est elle qui est à l'origine des textes et moi je compose, je fais les musiques.
D'accord. Alors c'est une écriture très très poétique. Je pense surtout au premier morceau qui introduit l'album, là, la Revanche de la Louve, qui est très surprenant au départ. Ça t'est venu comment ça ?
Ce morceau en particulier ?
Oui, celui-là en particulier parce qu'il est intriguant puisque c'est des fois il est très écrit, il démarre très lentement. C'est très étonnant pour un démarrage d'album.
Oui, c'est vrai, ça vient lentement. Mais j'avais envie de commencer d'ouvrir l'album sur une fable, en quelque sorte. Ouais. Et cette idée m'est venue d'une phase de réconciliation entre l'homme et la nature. Et j'ai commencé à écrire La Revanche de la Louve. Ça a plu à Bernard. Et je sais pas, pour moi, c'est... C'est un monde qui s'impose dès le départ, quoi. On rentre dans un univers j'avais envie de commencer par une réconciliation parce que pour moi c'est une fable qui a à voir avec la possibilité d'une réconciliation.
Et moi j'ai toujours aimé les albums un peu conceptuels qui ont des intros un peu bizarres, un peu lentes.
Oui, parce que c'est assez proche c'est vachement dans la textualité, quoi. C'est pas on rentre là-dedans à travers la matière texte. Et moi, j'aime bien aussi rencontrer de cette manière-là.
Oui, parce que le reste de l'album est plutôt pop et plutôt, voire même très dansant par
il est
par
assez éclectique.
En
fait,
très éclectique.
Il a plusieurs visages, j'ai l'impression. C'est un peu un patchwork. Il n'y a pas... Y a... Il n'y a pas vraiment de fluidité. On peut passer d'un genre à un autre et on s'est laissé cette liberté-là. Mais ouais. C'est sûr que là, le rapport à la fable et à la métaphore est très, très présent dans ce début d'album.
Et musicalement, vous avez les mêmes références, les mêmes influences ou... Qu'est-ce que vous écoutez chacun de votre côté et finalement, qu'est-ce qui fait que quand vous vous retrouvez sur Hum, vous êtes en accord sur les choix musicaux?
On n'a pas toujours les mêmes références. Déjà, il y a une différence d'âge entre Sophie et moi, on a à peu près 20 ans d'écart. Et donc, on n'a pas forcément écouté les mêmes choses quand on était adolescent. Mais on a des goûts communs. Sophie, elle aime, il y a des morceaux comme des morceaux des Stranglers ou de Pink Floyd.
Talking Heads,
qu'elle aime bien. Et donc, il y a quand même un socle commun. Et puis après, sur les morceaux que je lui proposais, il y en a certains qui lui plaisaient, d'autres qui lui plaisaient un petit peu moins. Donc, Sophie a fait aussi des choix sur les mélodies.
Est-ce que vous définissez votre musique? En fait, est-ce que vous l'inscrivez dans un genre particulier?
Pas trop, parce que c'était même presque, je dirais qu'on l'a même presque fait exprès de pas pouvoir être classé très facilement dans un style. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de styles différents. Il y avait même une chanson qui était un peu jazzy, qui finalement n'est pas sur l'album.
Mais toi, tu la classes dans un genre particulier, Bernard, non? T'en parles comme...
C'est de la pop, globalement, mais il y a plusieurs styles qui se mélangent, je pense. Il y a un côté un peu rock progressif, il y a... un côté un peu plus disco, un côté un peu plus new wave peut-être, et un peu plus folk. Un des morceaux qui est pas sur l'album, qui était sur l'EP, est un peu plus folk. C'est un petit mélange. Ouais. Ça reste pour moi quand même des influences un peu 70s, 80s, 90s.
Ouais.
Oui, il y a un groove effectivement un peu électronique qui est très, très 80s, notamment sur Monkey Song.
Oui.
Effectivement un peu plus électro dansant.
Et alors, Sophie, donc tu as fait t'es montée sur scène donc à la Boule Noire il y a quelques mois. Alors être sur scène en tant que chanteuse ou être sur scène en tant que comédienne, il y a une différence ou comment? Est-ce que le passer de l'un à l'autre c'est simple?
Bah, je croyais au départ qu'il y avait une différence, tu vois, parce que moi j'ai fait une école nationale de théâtre et j'ai toujours pensé que la musique c'était l'endroit où on pouvait être le plus libre au niveau de l'expression, de la sensation, de ce qu'on vit au présent. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ces deux domaines partageaient la même nécessité, c'est d'être quand même dans la structure. Avant d'être libre, il faut absolument être dans la structure et il faut maîtriser cette structure. Donc, je dirais que je vois beaucoup de points communs en réalité entre l'expérience de la scène musicale et l'expérience de la scène au théâtre. Et sous-tendu toutes les deux par le fait de devoir respirer, tu vois. C'est quand même un des éléments essentiels à la liberté, c'est de réussir à respirer. Et c'est quelque chose que je faisais pas du tout parce que moi j'étais toujours en apnée. Comme si j'avais peur de prendre de l'air. C'est deux expériences assez similaires pour moi. Je pense plus du tout qu'on peut être libre en chantant là tout de suite. Je pense qu'il faut d'abord traverser l'expérience de la structure et maîtriser ça et répéter des centaines et des centaines et des centaines de fois pour pouvoir vraiment abandonner l'architecture et pouvoir être libre. Ça, c'est ce que je pense.
Et toi, Bernard, la scène, c'est quelque chose à la fois d'important ou est-ce que tu as fait beaucoup de scènes avant avec d'autres projets?
J'en ai fait il y a très longtemps avec mes premiers groupes Scénario et après SAF. Mais moi, la scène, c'est pas un truc que vraiment j'apprécie énormément. Déjà, c'est très compliqué. Enfin, il faut répéter énormément. C'est un boulot de dingue.
Ouais.
C'est énormément de boulot. Voilà. Et puis, quand on fait des chansons, c'est pas. Enfin, moi, j'ai pas cette espèce de délire sur la scène. Je pourrais tout à fait me contenter de balancer les chansons sur Internet et que les gens écoutent. Et ça, pour moi, ça serait tout à fait satisfaisant. J'ai pas forcément un besoin absolu d'aller les présenter en public sur scène.
Ah ouais.
Donc, c'est dingue. Ça nous sépare, ça, quand même.
Après, ah ouais. Une fois qu'on est sur scène, on est content d'y être, voilà.
Mais ben moi, ce que je trouve génial, c'est l'expérience de la transformation, tu vois, des morceaux sur scène, du déplacement, en fait, de déplacer. Et puis, tu déplaces toujours, dès que tu as un public différent, je trouve que les morceaux se déplacent, que ton rapport n'est pas du tout le même avec les morceaux, quoi. Ouais. C'est peut-être un souci de précision, non, que tu... C'est le Glenn Gould, en fait.
Peut-être aussi, oui, que la qualité du son est un peu moins bonne en live. Je sais pas, mais c'est pas, si on me disait il y a plus de scène pendant 10 ans, dans les 10 prochaines années, pour moi, ce serait pas très grave.
Ouais, donc finalement, le confinement, ça n'a pas été un problème, en fait.
Non.
Bernard, il est en confinement depuis des années. Il a toujours vécu en confinement.
Non, c'est gênant pour la promotion, parce qu'aujourd'hui, la scène, c'est une partie importante de la promotion, et je dirais que c'est presque dommage pour moi, quoi.
Alors justement, c'est quoi l'étape d'après ? Donc, vous avez sorti un album, donc je sens, bon, il y a une prochaine scène, je crois que c'est en avril, à la Boule Noire. Ouais. Est-ce qu'il y aura une tournée ?
J'ai pas l'impression. Et pour une tournée, il faudrait qu'il y ait un tourneur, que des gens s'occupent de nous, ce qui est pas hyper le cas en ce moment.
Alors, je t'ai connu par un autre projet, je t'ai découvert par BT93. Là aussi, c'est un projet qui est très singulier, si j'ai bien compris. En fait, c'est quelque chose qui est resté comme ça, caché pendant quelques années et jusqu'à ce que tu le remettes en forme et le relances. Quelle est l'histoire là, de BT93 ?
BT93, BT c'est mes initiales, Bernard Tanguy, et 93 c'est l'année où j'ai composé la plupart de ces chansons. En fait, c'était entre 89 et 94. Mais c'est une période où je voulais être musicien. Enfin, c'était vraiment mon but dans la vie. Et malheureusement, j'ai pas gagné ma vie avec la musique. Et comme j'avais fait des études à côté, finalement, au bout d'un moment, j'ai abandonné et je me suis mis à travailler comme consultant en télécommunication. Et voilà, ça a duré. Mais j'avais toujours dans ma tête l'idée qu'un jour ça ressortirait. Et puis, mon frère avait une boîte. Et lui, il avait fait écouter à quelques personnes, et j'ai eu tout à coup une espèce de noyau de fans qui s'est formé, qui eux passaient sans arrêt mes chansons dans leurs soirées, même parfois dans d'autres soirées, et j'ai eu des pressions pour que ce truc-là sorte. Ils étaient pas hyper nombreux. J'avais une espèce de noyau de fans assez dur, je sais pas, une cinquantaine de personnes.
Et tu vois. T'es pas populaire aujourd'hui, mais t'étais très populaire hier. Voilà.
Et puis après, donc j'ai une autre personne qui s'appelle DJ Caramel qui m'a dit, mais il faudrait absolument sortir ce truc. Et je venais de faire Hum avec Sophie, et puis j'en ai parlé à Frédéric Lowe, je lui ai fait écouter, il m'a dit, ah ouais, c'est pas mal et tout. Et du coup, il a un petit peu intervenu, enfin, il m'a filé un petit coup de main et j'ai ressorti l'album.
D'accord. Et donc là, aujourd'hui, donc tu mènes les deux projets en parallèle. Enfin que.
Ouais, j'ai simplifié les choses en disant que maintenant, moi, c'est BT93. Donc Hum, c'est Sophie plus BT93.
Ah bon ?
D'accord, c'est clair.
Sophie plus BT93, je comprends pas trop ta logique là.
Bernard Tanguy n'existe plus musicalement. Son nom de scène, c'est BT93.
D'accord. Ok.
Là, on a une révélation.
Voilà.
Un scoop.
Tu sais, Bernard, si on avait une attachée de presse, tu te ferais taper sur les doigts, là. Ce que tu as dit avant, tu as dit qu'on n'était pas populaire, qu'on n'avait pas de tourneur, ça craint, ça.
Moi, j'aime bien dire la vérité, quoi.
Non, mais c'est un appel, comme ça, on mettrait un message d'accompagnement sur les réseaux sociaux pour
cherche
dire...
Cherche tourneur avec l'interview.
Cherche tourneur pour tourner international... Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous deux, en fait, chacun de vos côtés, qu'est-ce que dans vos vies, dans vos carrières, c'est quoi, c'est une parenthèse enchantée, c'est un divertissement, ou c'est on y va à fond et ça va être vraiment le but principal de nos vies?
Je pense, je vais laisser Sophie répondre, mais je crois que pour elle a une carrière de comédienne qui est quand même quelque chose d'important pour elle, donc ça vient plutôt en second. Et en ce qui me concerne, moi, la musique, c'est devenu mon activité principale. Et je dirais comme Hum, c'est un projet comme BT93, voilà.
Moi, j'ai aucune certitude, si tu veux. Moi, j'aime passionnément mon travail.
au cinéma et au théâtre, mais homme, c'est vrai que j'avais... Comme nous, tu vois, en tant qu'acteur, actrice, on a des plages de temps extrêmement larges entre les projets de films, les mises en scène. Ben, c'était un moment où je pouvais retrouver Bernard pour créer des choses singulières qui nous plaisaient à tous les deux. Et c'était un peu un garde-fou, oui, aux errances entre les différents projets. Et puis, je pense que on pouvait y mettre des choses de nos singularités qui me plaisent particulièrement et que je peux pas mettre dans les projets des autres.
Donc, ça reste un projet important.
Ça reste un projet important, ouais. Et si demain, finalement, était en tournée internationale, si on allait enfin au Texas, tu vois, peut-être j'en ferais mon domaine d'activité principale, je sais pas.
Ouais. Ouais, c'est ça, passer à Coachella et faire tous les
plus grands festivals. C'est un mystère de ce qui arrive au présent. Tu sais jamais où les choses t'emmènent. Il y a des actrices qui voulaient pas être actrices, il y a des chanteuses qui voulaient pas être chanteuses. Je suis très inspirée aujourd'hui, excusez-moi. Je suis en fait au fin fond de la campagne, dans le Perche, et je vois que des biches et des bêtes.
D'accord.
Des louves.
Non, il n'y a pas de lui.
Et alors, pourquoi Traversant ? Alors, ça aussi, c'est une interrogation. Le nom de l'album, c'est intriguant.
C'est moi qui l'ai eu, cette idée, non ?
Oui, donc je te laisse répondre.
Parce que j'aimais beaucoup ce mot, parce que c'est un peu un mot valise. Traversant en mouvement, on traversait différentes fables, et ça racontait cette idée du mouvement. Et puis il y a les travers sanguinolents, je sais pas, de la nature humaine. Et puis on peut le mettre à l'envers, ça donne sans travers. Sans travers, c'est pas mal.
C'est pas mal, ouais.
Je sais pas, c'est un mot qui me plaît bien, traversant.
Oui, moi j'aime bien aussi l'idée qu'on soit pas figé dans des cases. Voilà, on traverse un peu le monde de la chanson.
Oui, comme des bouffons heureux,
heureuse. Est-ce qu'il y a une suite déjà prévue à Traversant ? C'est-à-dire que vous avez déjà commencé, vous avez d'autres chansons en stock, vous avez déjà commencé à travailler sur la suite de Traversant 2, le retour ou...
Là, on travaille sur une nouvelle chanson là, qui sera une reprise. Ouais. Et on va faire d'autres chansons, ouais, certainement.
Il faut en fait qu'on trouve le bon moment. Et tu vois, à une époque, on s'était retrouvés dans la maison de Bernard à l'île de Ré, c'était bien, on était en vase clos. Moi, j'aime bien quand t'es dans un espace comme ça, un peu fermé, et que t'es totalement plongé dans tes hantises de musique, de texte, ou de... J'aime bien ces moments-là. Donc je sais pas, il faudrait qu'on trouve un moment, mais là, on a envie de se replonger dans un nouveau monde. Parce qu'un album, c'est un peu un monde, quand même, que tu façonnes.
Ouais. Alors, sur scène, tu reprends Bruxelles, de Dick and Garn. Bon, je sais que tu es belge, mais qu'est-ce que ça représente, cette chanson, pour toi
Justement, ça représentait mon enfance et la Belgique que j'ai quittée très tôt et qui me quitte en réalité jamais. Et puis, à l'époque, mon père était malade et il était justement près de Bruxelles. Et je sais pas, c'est une chanson qui me... En fait, je suis belge et j'ai très longtemps été honteuse un peu d'être belge. Tu vois, j'étais un peu la clown des Françaises. Et en fait, aujourd'hui, je me suis beaucoup rapprochée de mes origines. Je sais pas, ça me touche.
C'est quoi être belge d'ailleurs ?
C'est surréaliste, être belge, tu vois.
Ouais.
Être belge, c'est... je sais pas, je suis passée à Bruxelles l'autre jour et il y a un type qui m'a arrêté dans la rue, je te raconte, ça c'est être belge. Il y a un type qui m'a arrêté dans la rue, il m'a dit, excusez-moi madame, j'ai un souci là, est-ce que vous pourriez m'aider ? Et je me suis dit, en tant que Française, il va me demander de l'argent, tu vois, un truc. Non, pas du tout. Il m'a dit, vous pourriez remettre ma ceinture parce que j'ai trop de sacs. Et donc j'étais en train de remettre la ceinture de quelqu'un que je connaissais pas. Ce moment de proximité entre lui et moi, complètement hallucinant. Ça, c'est belge. Je sais pas, belge, c'est assez surréaliste, en fait. C'est un esprit.
C'est un esprit, ouais. d'humour, de créativité,
c'est une blague ininterrompue.
La fantaisie. Alors, c'est vrai, effectivement, il y a eu quelques blagues sur les Belges, pas très élégantes pendant des années.
Ouais. Mais c'est bien d'être les bouffons des autres. C'est ça, ça, je sais pas. C'est un statut que j'aime bien, le statut de bouffon. Chez Shakespeare, le bouffon, il apporte toujours la lumière sur l'âme humaine.
Ouais. Ah, il dit la vérité, souvent.
Ouais, souvent, il dit la vérité. Il a l'air bête, mais c'est qu'un air.
Alors, on va écouter Monkey Song, donc, qui a été donc, la première brique de cet album qui avait été rendu public avec un clip absolument magnifique. Pourquoi un cheval, d'ailleurs? C'est Monkey Song, mais on voit un cheval dans le clip.
Pour semer le trouble. Bernard répond à cette question. En fait, on a cherché un singe et on s'est dit qu'on venait dénoncer la maltraitance animale et qu'on allait encore... Pourquoi un cheval, Bernard?
Parce que c'était un peu une chanson sur la liberté et que un cheval, c'est aussi un symbole un peu de liberté.
Ok, je prends. Donc on écoute, voilà, Monkey Song.
Yeah.
Donc c'était Monkey Song, extrait de Traversant, premier album de Hum. On va passer à l'interview express. On est dans un contexte, je dirais, pandémique, d'évacuation urgente, d'invasion russe, etc. Vous devez quitter votre domicile avec un seul album. Qu'est-ce que vous prenez avec vous ?
Alors moi, je sais ce que je prends. J'y vais.
Qu'est-ce que tu prends ?
Moi, je prendrais l'album de Yes, Tales from Topographic Ocean.
Ah ouais.
1960. Pourquoi donc ? C'est ton album culte ?
C'est un album dont je ne me lasse pas. C'est un double album, donc j'ai deux fois plus à écouter qu'un album normal. Et puis, je m'en lasse pas. Il n'y a pas de redites dans cet album. Il
est
des super mélodies, c'est très inventif. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre.
J'ai droit qu'à un choix, alors je vais prendre White Chalk, PJ Harvey. Tu connais cet album ?
PJ Harvey, en tant qu'artiste, c'est une sorte de modèle pour toi ou c'est...
J'aime pas le... C'est vrai que c'est pas trop de modèle, mais c'est quelqu'un en tout cas dont j'adore rentrer dans son univers. Je trouve qu'elle a un univers incroyablement singulier et je trouve qu'elle est en perpétuelle transformation et que on voit. C'est ça que j'aime voir aussi chez les artistes, c'est qu'ils sont toujours en mouvement et je la trouve très 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 en mouvement.
Ah, ça se voit même sur scène. Je trouve même son style, son look, tout a évolué en fait au fil des années entre, enfin, son premier album Dry et puis, enfin, ses premiers albums là et puis aujourd'hui, ouais, elle a une présence.
Ça très, très pur en fait cet album. J'ai une économie que j'aime beaucoup et puis, je sais pas, il me touche particulièrement.
Alors, si on restreint encore le choix, si vous devez garder qu'un seul titre, est-ce que vous avez un titre que vous écoutez sans cesse, dont vous ne pouvez pas vous passer ?
Peut-être, j'en ai plusieurs, mais un au hasard. Celui qui me vient à l'esprit, ce serait Aladdin Sane de David Bowie. Le solo de piano de Mike Garson, il est absolument incroyable. Mmh. Et pareil, c'est une chanson dont je ne me lasse pas.
Et toi,
Sophie ? Moi, j'écoute en permanence en ce moment une reprise. Donc, je te parle au présent, là, une reprise de Soap and Skin, de Voyage, Voyage, que j'adore, qui m'émeut aux larmes. Je ne sais pas pourquoi, cette chanson particulièrement, mais je l'ai écoutée d'ailleurs des cinquantaines de fois en m'endormant. J'adore ce morceau.
Tu peux avoir les statistiques sur ton bilan annuel de Spotify.
Oui, elle va exploser.
Ouais. Est-ce qu'il y a un titre, un album, un artiste qui vous plonge, mais dans une tristesse absolument insondable à chaque fois que vous l'écoutez ?
Bernard ?
Alors, je suis en train de réfléchir.
Moi, je l'ai tout de suite. Hein.
Oh, vas-y.
Grace de Jeff Buckley me plonge dans une tristesse insondable et en même temps, j'adore cet album. Je le trouve. Je trouve transcendant, je sais pas. Mmh. Il y en a un autre aussi qui me plonge dans une grande tristesse, Elliott Smith, et je peux pas m'en passer non plus. J'adore ce qu'il fait à la guitare et j'aime bien sa fragilité. En même temps, c'est magnifique, les arpèges qu'il fait sur certains morceaux sont sublimes.
Ouais.
Moi, c'est une chanson c'est une chanson d'Yves Duteil et de Jeanne Moreau qui s'appelle. Ça doit s'appeler l'adolescente, je crois, un truc comme ça.
Ouais.
Oui.
La mélodie est triste en elle-même, quoi. On a l'impression que tout est désespéré.
Ouais, parce qu'en plus, alors, tu citais Jeff Buckley, Elliott Smith, en plus des destins plutôt tragiques. Bon, Yves Duteil, ça va, il a pas trop.
Yves Duteil, ça va, il s'en est sorti.
Il s'en est sorti, c'est une chance.
C'est un peu tragique, il a terminé, il a fait de la politique à droite, je crois.
Oui, c'est vrai que... Oui, il a été maire d'une petite commune, je crois, pendant des années.
Ah oui, donc il a fini quand même tragiquement. C'est pas toujours la mort qui est tragique.
Ouais, il avait un côté un petit peu giscardien quand même.
Oui, un peu RPR, je crois, à l'époque.
Ouais.
Mais cette chanson-là, elle est très jolie.
Elle est belle. Alors, une fois qu'on est bien au fond du trou, en fait, qu'est-ce qu'on écoute pour remonter à la surface ? Qu'est-ce que vous écoutez ? Alors, qu'est-ce qui vous booste, vous donne la patate ?
Ah, une chanson qui danse.
Le silence absolu, tu sais. Rien ne nous rend la patate, Antoine.
C'est quoi ? Brésil, je sais pas quoi.
C'est un blind test, là.
Ah ouais.
Écoute, moi j'adore les Strokes et j'adore leur dernier album. Et je pense qu'ils l'ont sorti. Comment il s'appelle leur dernier album ?
Je joue mon Joker.
Tu cales. Ok, et ben ils l'ont sorti, je pense, juste après ou à la fin du confinement. Et c'est, je trouve remarquable. Et Sia aussi, j'adore Sia. J'écoute beaucoup Sia.
Alors, est-ce qu'il y a des sons ou des artistes, voilà, on n'est pas obligé de donner des noms, hein, mais des trucs que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus écouter ou qui vous sont parfaitement insupportables?
Il y en a, mais on ne peut pas donner les noms.
Oui, il y en a. Attends. Bah si, tu peux quand même donner un nom, Bernard.
Oh bah non, moi je vais pas...
Quelqu'un de mort, comme ça on lui fera pas trop de mal.
Faire dire des choses que j'aime que des choses que j'aime pas.
Ben moi, il y en a un que Bernard adore et que j'ai du mal, là. C'est Gainsbourg. J'en peux plus. En fait, tu vois, je vais le dire un peu doucement. Mais... Les sucettes à la Nice, par exemple, je supporte plus. Et sinon, j'ai du mal à entendre Annie Cordy, ça me rappelle mon enfance. Tata Yo-Yo, c'est difficile. J'ai l'impression d'être. Ouais.
Elle était un peu belge en plus.
Oui, un peu, oui. Ma grand-mère la mettait en boucle dans son salon. Tu vois.
Ah oui, effectivement, il y a des traumatismes d'enfance.
C'est ça, des traumatismes.
Compliqué. Ouais. Alors, est-ce que vous avez chacun quelques petits plaisirs coupables, c'est-à-dire que des choses que vous écoutez avec délectation absolue, mais en revanche, votre entourage trouve ça parfaitement incompréhensible.
Bernard, à vous.
La chanson de Koé, Zidane va marquer, Zidane va marquer.
Ah oui, c'est du lourd.
C'est du lourd parce que moi, j'étais ultra fan de Zidane.
Ça, t'aimes ?
Bah, je la mettais chez moi, elle était dans ma playlist, cette chanson, une fois, ouais.
Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est la honte, quand même. Ouais, moi, c'est plutôt Céline Dion, tu vois. Il y a des morceaux de Céline Dion qui me plaisent vachement à l'écoute, et en fait, j'oserais pas le dire aux gens.
Mais c'est peut-être le genre de choses que tu chantes dans ta voiture ou...
Que j'écoute toute seule, dans la vie. Je n'écoute pas avec des gens, j'écoute toute seule et j'essaye de baisser le son pour pas que les gens autour l'entendent quand même. Parce qu'il y a quelque chose d'assez, je sais pas, assez honteux à écouter, c'est délicieux. C'est bête, hein, c'est une vision de l'esprit.
Ouais, totalement. Et est-ce que vous avez chacun des dans votre panthéon personnel des artistes absolument culte, alors ça peut être aussi pas uniquement chanteur, hein, ça peut être aussi acteur ou réalisateur ou, qui vous inspire particulièrement.
Il y a tellement de gens.
Ah oui, il faut faire des choix aussi.
Bah, moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer deux. Par exemple, j'étais un fan absolu de R et je suis devenu assez copain avec Jean-Benoît Dunkel. Ça, c'est vraiment. J'étais très content. Et puis, Stupéflip, qui était un de mes groupes préférés, où j'idolâtrais King Ju. Et pareil, je l'ai rencontré. Et dans les deux cas, ce sont des gens vraiment absolument pas décevants. Donc, ça fait plaisir. Après, il y a une comédienne américaine que j'aime beaucoup en ce moment, qui s'appelle Margaret Qualley, qui joue dans la série Med sur Netflix.
Je sais pas, les gens qui vont au tréfonds de leur âme et qui arrivent à rester dans la structure, qui sont des poètes et qui arrivent à maîtriser leur... Nina Simone, Mohamed Ali, Angela Davis...
Il y avait David Bowie, j'aurais rêvé de le rencontrer aussi.
Ah oui.
L'actrice Olivia Colman, elle est incroyable.
Olivia Colman, c'est pas elle qui joue dans The Crown ? J'ai un doute.
Si, Olivia Colman, si, oui.
Et est-ce que vous avez des livres cultes, des films cultes, des choses qui font partie aussi, ces espèces de choses auxquelles on se raccroche, qui sont une source d'inspiration.
Moi, il y a plusieurs films que j'ai vus. Pareil, c'est souvent lié à l'adolescence, parce que c'est des moments qu'on idéalise un peu. Il était une fois dans l'Ouest. J'ai dû le voir trois ou quatre fois, ce film. Parce que j'étais amoureux de Claudia Cardinal. Ensuite, j'aime bien tous les films de Paul Verhoeven et en particulier Starship Trooper. Je trouve que c'est pareil, on n'est pas loin du chef-d'œuvre.
Eh ben moi, je dirais toute l'œuvre de Steinbeck que je trouve magnifique. Martin Eden de Jack London, qui était vraiment mon livre de chevet. Et Marguerite Duras, bien sûr, quand même. Pour sa musique, son écriture comme une vague, elle est incroyable. Et voilà. Et moi, il y en a d'autres. Que... Maeterlinck, pour son théâtre, je ne sais pas si vous connaissez Maurice Maeterlinck, l'auteur belge, c'est sublime. Ça se rapproche, je ne sais pas, du rapport au silence de chez Beckett, dans l'écriture de Beckett. Oui.
Moi, dans mes livres cultes, j'adore les livres de Boris Vian qu'il écrivait sous le nom Vernon Sullivan, mais en particulier deux, c'est « Elles se rendent pas compte et on tuera tous les affreux
». Je connais pas ça.
Ah bah tu devrais regarder, c'est un peu de la série B, mais c'est vachement bien écrit, c'est super chaud. Et sinon, il y a le bouquin d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, que j'ai relu plusieurs fois aussi, qui est un peu un de mes livres cultes.
Alors, on va écouter un deuxième titre, en fait, extrait donc de Traversant, Balade des gens heureux. Pas la balade des gens heureux, mais Balade des gens heureux. Quelle est l'histoire de ce titre, en fait?
C'est à toi, Bernard.
Bah, c'est un titre un petit peu ironique. C'est une balade des gens heureux, de gens qui ne sont pas très, très heureux, justement. C'était un peu ça l'idée. Une déambulation dans Paris.
Ouais, effectivement, on l'entend dans le ton de la voix, effectivement, de Sophie, enfin, quelque chose d'un petit peu mélancolique.
Deux solitudes qui se rencontrent et qui construisent la fiction d'un bonheur fragile.
Et on va écouter ce titre. Et ben, merci, à bientôt sur scène.
Merci. Merci, Antoine.
À bientôt.
À bientôt.
Volume sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois, musique du générique Nezik. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.